Mes amis, ce soir, j'aime à vous saluer dans le Seigneur Jésus. Et si dans nos précédentes soirées, nous avons été occupés de la parole de Dieu au travers du livre des psaumes, ce soir, notre toile de fond se trouvera dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Nous nous mettrons une fois de plus à l'écoute de celui qui aimait s'appeler le Fils de l'homme. Nous allons tout d'abord nous recueillir dans un instant de prière. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ouvrir ton livre sans invoquer, ô Dieu notre Père, ton aide et ton secours. Et nous savons que ce que nous te demandons est une chose selon ta volonté, car tu désires nous instruire et nous éclairer. Tu veux nous parler ce soir encore, et tu veux nous parler par ton Fils, en ton Fils, le Seigneur Jésus. Que ce soit véritablement sa voix, que nous puissions entendre et qu'elle touche et nos cœurs et nos consciences. Que la puissance de ton esprit illumine ces pages de ta parole et applique cette parole à chacune de nos âmes selon l'état dans lequel elle se trouve. Seigneur Jésus, tu connais nos pensées, tu connais nos sentiments, tu connais les mobiles de nos cœurs ce soir. Toutes choses sont nues et découvertes à tes yeux. Nous ne pouvons pas porter de masque devant toi. Et c'est pourquoi nous voulons te demander que ton esprit soit tellement à l'œuvre au milieu de nous que nous en soyons transfigurés les uns et les autres et que nous connaissions réellement ce que veut dire une régénération et le pardon de toutes nos fautes en Jésus-Christ, le nom béni qui nous exauce toujours. Amen. Si j'avais un titre à donner à notre message de ce soir, ce serait celui-ci correspondant à notre thème, les droits du Fils de l'homme, son droit de pardonner. Et pour servir de toile de fond à tout ce que nous dirons, nous allons lire trois portions de l'Évangile nous racontant le même récit, afin que vous puissiez vous-même discerner combien il est utile de ne pas lire seulement un récit dans Matthieu, mais de chercher s'il ne se trouve pas aussi dans Marc, et peut-être dans Luc, sinon dans Jean, afin de voir quels détails les évangélistes ont ajoutés à leur reportage d'un événement qui a marqué le séjour du Fils de l'homme sur la terre. Nous lisons la guérison d'un paralytique, racontée d'abord par l'apôtre Matthieu, qui n'est autre que Lévi, et nous lisons ce récit dans le chapitre 9 de son évangile, qui est le premier du Nouveau Testament. Et j'aimerais que vous suiviez attentivement ce texte. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer. Quelle mer pensez-vous qu'il a traversée? La mer de Galilée, oui, vous réfléchissez, c'est pas la Méditerranée. Et il alla dans sa ville. Quelle ville? Capernaum. Bravo. Mais c'est pas dit ici, hein. Je ne sais pas si vous avez une science infuse ou si déjà vous avez lu les autres récits dans Marc et Luc. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, la foi de qui? De ceux qui l'ont amené, mais on ne sait rien de ceux qui l'ont amené. Mais Jésus, qui connaît les cœurs, a discerné dans ces personnes qui l'ont amené une foi réelle. Voyons la foi. Donc, la foi, c'est quelque chose qui se voit, c'est ça. Mais qui se voit en quoi? Qu'est-ce qu'il faisait, ces gens qui amenaient le paralytique? Ils lui donnaient des coups de pied aux fesses pour qu'il avance. N'est-ce pas? Non, ils le portaient. Donc la foi visible est manifestée par une œuvre, par une action. Comprenez bien les choses. Pour qu'on voit la foi, il faut qu'il y ait une manifestation. Il ne faut pas dire, moi j'ai la foi. C'est parce qu'on n'a pas besoin de le dire qu'on a la foi, ça se voit. Pourquoi crier que vous avez la foi? Si vous l'avez, elle se manifeste. Et l'on vous posera des questions. Voyons la foi de ces gens, il dit aux paralytiques, pas à ces gens, prends courage, mon enfant. Tes péchés se sont pardonnés. C'est étonnant, n'est-ce pas? Voilà un homme que l'on apporte pour qu'il soit guéri. Le Seigneur le regarde, il lui dit, prends courage, mais il ne le guérit pas. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Certainement que les gens qu'il avait amenés à Jésus ne pensaient pas que Jésus allait lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qu'ils attendaient? La guérison. Et ce n'est pas la guérison qui préoccupe d'abord Jésus. Mais regardez la douceur de Jésus. Regardez sa manière d'accueillir un homme qu'il n'a jamais vu. Je parle au point de vue humain. En tant qu'homme, Jésus n'avait pas rencontré ce paralytique. Mais que lui dit-il? Mon enfant. Et pourtant, il lui parle de ses péchés. Mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. Est-ce que cela ne vous dit rien? Mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. Oh, que la puissance de l'esprit brise vos cœurs. Est-ce que vous l'avez déjà entendu vous dire cela? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Continuons notre lecture. Sur quoi quelques scribes, donc il y avait des scribes qui étaient là autour, semble-t-il, dire au-dedans d'eux, est-ce qu'ils ont parlé fort? Ils ont parlé au-dedans d'eux-mêmes. Ça vous arrive de parler au-dedans de vous-même, sur les autres? C'est beau, hein? C'est une belle voix, se parler au-dedans de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Cet homme blasphème. Ils n'osent pas encore le dire ouvertement. Cet homme blasphème. Ils ont ce sentiment intérieur. Eux qui veulent défendre les droits de qui? Les droits de Dieu. Car les scribes sont des gens religieux. C'est une drôle de race, les gens religieux. Les gens religieux. Les gens qui vont à l'église, qui vont à des cultes, aux offices, à la messe ou ailleurs. Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Voyons, c'est pourquoi dont nous vous parlions hier. Hein? Nous avons parlé d'un certain pourquoi et que nous pourrions faire toute une étude sur les pourquoi. Eh bien, voilà de pourquoi. Parce que Jésus a regardé leur visage, et vous savez ce qu'ils se disaient en eux-mêmes, ça se voyait sur leur visage. Ça se lit sur votre visage, ce que vous pensez. Vous savez, il n'y a pas besoin de regarder deux fois les yeux de quelqu'un pour voir ce qui se passe dans son cœur, quand on vit un peu près du Seigneur. Le Seigneur voit ce qui se passe dans leur visage, et il connaît leurs pensées. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Quand vous avez de mauvaises pensées dans vos cœurs, eh bien, ça se voit sur votre visage. Vous n'avez pas bonne mine. Vraiment, vous n'avez pas bonne mine. Même si vous prenez tous les fards possibles pour cacher vos pensées. Mais vous me direz, alors il n'y a que les femmes qui ont des mauvaises pensées, parce que les hommes ne se fardent pas. Non, mais ils ont d'autres choses. On peut se laisser pousser la barbe. Encore une fois, je ne vise personne. Parce que vous savez, ce ne sont pas les poils apparents qui sont les plus visibles. Verset 5. Jésus continue. Car lequel est plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Qu'est-ce que vous croyez qui est le plus facile? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, voilà on s'y retrouve, hein, notre Fils de l'homme, les droits du Fils de l'homme, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, notez bien cela, n'est pas dit dans le ciel, hein, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quelle occasion manquée pour le Seigneur. Au lieu de se faire un adepte, il le renvoie dans sa maison. C'est pas un évangéliste moderne, le Seigneur Jésus, qui veut agrandir à tout prix sa communauté par une âme de plus. Et lui dit, va dans ta maison. Nous, on lui dirait, viens chez nous, hein, sois des nôtres maintenant. Ce n'est pas du tout cela. Il laisse cette grande liberté. Et puis nous allons voir pourquoi il lui dit d'aller d'abord dans sa maison. Et vous vous rendez compte, si le Seigneur avait dit à tous ceux qu'il guérissait de venir le suivre immédiatement, il en aurait eu des lits. Il aurait dû faire une chapelle pour mettre les béquilles et les lits pendus qui étaient restés là parce que on n'était pas revenu à la maison rapporter son lit. Mais on l'exposait pour montrer les guérisons du Seigneur. Oh, ce n'était pas cela qui l'intéressait. Il ne cherchait pas à ce qu'on dise, il a fait des guérisons. Voyez comme Jésus a pu guérir. C'est tellement autre que tout ce que nous voyons dans nos religions, qu'elles soient protestantes, catholiques, orthodoxes, bouddhistes, ou hindouistes, ou juifs, où l'on veut toujours souligner les choses extraordinaires et où l'on ne sait pas vivre dans l'ordinaire et dans la vérité. Va dans ta maison. Je voudrais que la parole de Dieu vous pénètre et corrige vos pensées et qu'elle ait de l'autorité sur votre manière de vivre. Alors, quand la foule dit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Nous passons maintenant dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, et nous allons lire le même récit. Vous allez me dire que je vous fatigue, que je ne sais pas vous dire grand-chose ce soir, puisque je vous relis trois fois la même histoire, mais j'ai un but très précis. Chapitre 2 de l'évangile de Marc. L'évangile du serviteur. Si vous aviez lu le chapitre 1er, vous auriez vu comment se passait une journée du Seigneur. Le matin, il enseignait à la synagogue et il guérissait un homme à la main desséchée. L'après-midi, il faisait des visites particulières. Il guérissait la belle-mère de Pierre qui était agitée par la fièvre. Et le soir, longtemps après le coucher du soleil, vous auriez vu le Seigneur Jésus rassemblant, sans qu'il fasse une propagande, des foules qui venaient auprès de lui pour être guéris et libérés des chaînes qui les liaient. Et longtemps avant le jour, le lendemain, les disciples le cherchaient et on le trouvait en prière dans un lieu désert. Et il recommence son activité, il guérit un lépreux et après cela, comme on lui fait déjà des ennuis, il s'en va dans les déserts pendant quelque temps. Dès qu'il voit qu'on veut faire une propagande ou qu'on veut se servir de lui, il s'écarte. Quelqu'un m'a demandé si Jésus n'avait été tenté qu'au début de son ministère, mais c'est durant toute sa vie que les tentations lui ont été offertes, justement, quand il avait un tel succès. Il n'exploitait pas ce succès. Quand il voyait qu'on parlait trop de lui, mais en tant qu'homme, en tant que vedette, eh bien, il se cachait parce qu'il ne voulait que les hommes n'honorent que son Père. Et tant qu'on n'avait pas discerné en lui le Père, il ne voulait pas attirer la gloire sur lui-même, car toute gloire, il voulait qu'elle remonte au Père. Il était venu pour révéler le visage du Père. Alors, maintenant, vous pouvez lire le chapitre 2. Quelques jours après, donc après cet arrêt, après cette mise à l'écart, Jésus revint à Capernaum. Ainsi, nous apprenons que sa ville, c'est Capernaum. Et si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous apprenez qu'il avait en effet quitté Nazareth au chapitre 4 de Matthieu, au verset 12. Il se sépare de la ville où il a été élevé et il vient habiter à Capernaum où il avait une maison. Ne vous figurez pas que Jésus a toujours été comme celui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête et qui disait « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des retraites, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. » Jésus a dit cela une fois qu'il était poursuivi et que l'on avait arrêté de le faire mourir et qu'il devait très souvent passer la nuit dans un lieu inconnu. Mais il fut un temps où Jésus avait une maison. une de ces maisons que l'on trouve en Orient, et il faut les avoir vues pour bien comprendre cette scène qui nous est rapportée ici avec plus de détails que dans Matthieu. Nous sommes donc à Capernaum, qui est une ville située au bord du lac de Tibériade. Il n'y a plus que des ruines maintenant, et en particulier les ruines d'une synagogue. On apprit qu'il était à la maison. Jésus à la maison. C'est quelque chose. Il a su ce que c'était d'être à la maison, Jésus. Mais il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir, parce que les maisons un peu considérables en Orient ont toujours d'abord une cour fermée, on y entre par une porte, puis de cette cour on entre dans les appartements. Alors la foule se tenait donc dans cette cour intérieure de la maison et était aussi devant la porte. On ne pouvait plus contenir la foule. Et alors, que faisait Jésus? Il leur annonçait la parole. Voilà la sainte activité du Seigneur. Il leur annonçait la parole. Il leur prêchait les Écritures. Et qu'est-ce que les Écritures? C'était l'Ancien Testament. Et s'appuyant sur l'Ancien Testament, il leur présentait que le royaume promis à Israël était proche, que le roi était là. La bonne nouvelle de l'Évangile, vous connaissez son message, repentez-vous et croyez à l'Évangile, à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour les hommes. Des gens, verset 3, vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Voilà tout à coup que nous apprenons qu'ils étaient quatre. Quatre pour porter ce paralytique. Donc, nous pouvons voir là quatre personnes qui ont vraiment à cœur la guérison du paralytique. Ils ne se sont pas mis à deux seulement, un par les pieds, un par les épaules, en le portant comme ça. Non, ils l'ont pris sur son lit. Et pour que ce soit plus confortable dans ce transport, eh bien, ils se sont mis à quatre. Que c'est beau ça. Et vous les voyez, ces quatre qui arrivent. Mais que trouve-t-il? Il trouve une foule devant la maison et à l'intérieur. Et que vont-ils faire? Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous préoccupe quand vous lisez cela? Vous êtes dans cette foule, vous, hein? Puis vous voulez voir Jésus à travers la porte comme ça, puis vous êtes ennuyé par les autres. Il y en a qui sont plus grands que vous, puis qui se tiennent là, mais c'est parce qu'ils sont venus avant, hein. Mais vous aimeriez bien, ou bien qu'ils s'asseyent, ou bien qu'ils se retirent un peu, et vous n'avez pas toujours de bonnes pensées au sujet de ceux qui sont devant vous. Puis voilà encore derrière quatre hommes qui arrivent avec un paralytique. Ben quand même, hein, ils auraient pu prendre une autre occasion. Mais quand nous sommes là, on y reste. Puis on veut pas perdre sa place. Parce que quand même, on peut entendre ce qu'il dit. Et c'est quand même drôlement intéressant ce qu'il dit. Mais ces quatre-là, ils avaient qu'à venir plus tôt. C'est terrible. Vous ne vous reconnaissez pas? Personne ne se reconnaît dans ces gens qui obstruent, qui ne sont pas entrés, ne sont pas arrivés assez tôt, mais ils sont quand même là, puis maintenant ils jugent ceux qui arrivent plus tard qu'eux. Quelle parole, hein? C'est un vrai miroir, on se retrouve là-dedans. Alors, ils sont quand même assez ingénieux, mais je dirais aussi audacieux. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison. Les toits, dans ces maisons orientales, sont plats. Alors, comme pour aller sur la terrasse, c'était un escalier intérieur, ils ont dû peut-être trouver un escalier extérieur et monter par cet escalier, mais pour entrer là où se trouvait Jésus, eh bien, ils ont enlevé les dalles et ils ont fait un trou, ils ont percé le toit et ils ont ensuite descendu par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors, voilà que ça change un peu l'aspect des choses. Maintenant, on voit que ça n'a pas été facile, comme il semble dans l'évangile de Matthieu. Il y a des détails plus précis qui nous montrent que ces hommes ont dû persévérer parce qu'ils auraient pu retourner à la maison et puis dire aux paralytiques, écoute, tu sais, on a voulu te rendre service, mais que veux-tu, il n'y a rien à faire. Non, ils disent, nous sommes venus, et bien même s'il faut encore faire des efforts de te monter, tu sais, on ne va pas te lâcher. Hein. On va pas te lâcher, on ne va pas t'endommager. Tu es déjà paralytique, mais enfin, on fera pas pire. Hein. Ça fera pas pire. Fais-nous confiance. On est des costauds quand même, hein. Bon, alors, il le lève et il l'emmène là, sur le toit, et puis après, ils le descendent. Comment? Est-ce qu'ils avaient des cordes? Je pense qu'ils ont pris leur ceinture de pantalon, peut-être, peu importe, ça tenait quand même, et ils l'ont descendu. Et Jésus observe quand même ça, tout en parlant. Il voit, il sait ce qui se passe. Voyons leur foi. La foi de qui? Du paralytique? Non, des quatre hommes. Vous voyez, c'est toujours sur ce point que je voudrais insister. Voyons leur foi. Il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est donc bien le même homme. Ce sont les mêmes paroles que le Seigneur emploie, c'est la même histoire. Il y avait quelques scribes qui étaient assis. Ah, j'ai parlé des gens debout, mais maintenant, il y avait des gens qui étaient assis avec leurs petits coussins, hein, sous le postérieur, parce qu'on aimait confortable pour entendre Jésus. J'ai connu en Israël quelqu'un qui était dans un voyage que l'on faisait, eh bien, il avait emmené son petit coussin. Et partout où il y avait des pierres, où on s'asseyait, il mettait son petit coussin sous son postérieur. Et mieux que ça, c'était un jeu. Bon, il y en a qui aiment le confort. Et les scribes, eux, étaient assis. Et ils se disaient au-dedans d'eux. Hein? Continue. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul. Qu'ils avaient raison dans un sens? Oui. Hein? Ils avaient raison. Qui est-ce qui peut pardonner les péchés? Dieu. C'est ça? Mais qu'est-ce qu'ils voyaient en Jésus? Un homme. Comprenez-vous? Ils ne voyaient pas Dieu. Alors, leur raisonnement était juste, mais c'est que en Jésus, il ne voyait qu'un homme. C'était justement le risque que le Fils avait couru, c'est de s'incarner, de revêtir le corps d'un homme et de paraître ici-bas comme un homme qui allait croire que c'était Dieu lui-même. Alors, on estime que cet homme, qu'on est pourtant venu entendre, et on s'est assis pour mieux l'écouter, eh bien, il blasphème. Verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, attention mes amis, hein, il connaît ce que vous pensez maintenant, il connaît en ce moment, dans cette journée du 11 août 1980, il connaît ce que vous pensez, l'état de votre cœur est à nu devant le Seigneur. Ce qu'il pensait au-dedans d'eux leur dit, pourquoi
Quoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?
Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, voilà une guérison divine, hein? Notez bien, parce qu'on vous parle beaucoup de guérison. Et à l'instant, il se leva, pris son lit, donc on lui a pas dit, écoute, fais-toi aider quand même, hein, parce que tu viens de te lever, là, c'est les premiers pas que tu fais, tu pourrais crouler. Et ce qui nous étonne aussi, c'est que personne n'ait pris son lit pour lui porter. Hein. On n'est pas serviable. On regarde ce qui va tenir, bien sûr, à s'écrouler avec son lit. Il sera sous le lit après avoir été sur le lit. Hein? S'il s'écroule en portant son lit. Vous le voyez sous le lit paralytique. Alors les pauvres quatre hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu leur temps. Et à l'instant, il se leva, prit son lit. Et il sortit en présence de tous. Et alors, il n'a pas pu entrer. Il n'est pas remonté par le trou pour redescendre comme ça. Là, il est sorti. Puis les gens sont écartés. Mais pour le laisser entrer quand il était porté, non, non. Alors là, on s'écarte. La peur. Hein? Quelle sortie. Mais personne lui a offert de porter son lit. Et il alla dans sa maison. Et alors, tout le monde, puisque c'est en présence de tout le monde, était dans l'étonnement. Et il glorifiait Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Enfin, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça vous ennuie qu'on fasse encore Luc? Il y a encore un petit moment. Hein. Alors, nous arrivons dans l'évangile de Luc. Et nous relisons pour la troisième fois ce merveilleux récit. Je le lirai depuis le verset 15 pour bien situer le contexte. La renommée de Jésus se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule. Je vous l'ai pas dit? Chapitre 5. Chapitre 5 de l'évangile de Luc, verset 17. Verset 15e d'abord. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. C'est beau. Quand le succès est là, il se cache et il redouble de prière. C'est quand vous avez de grandes victoires qu'il faut le plus prier et veiller. Et le Seigneur Jésus nous enseigne ça, lui qui était pourtant le Fils unique de Dieu. Et vous rejoignez tout ce que vous avez lu et étudié dans le chapitre 2 des Hébreux. Ce Fils de l'homme qui a été rendu parfait par la souffrance. Verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Mais alors, nous savons où, par les deux autres évangiles. Où? À Capernaum, n'est-ce pas? Dans sa maison. C'est pas n'importe où. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Et nous avons un détail. D'où étaient-ils venus? Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait.
était par des guérisons. On venait de loin pour voir Jésus. On venait jusqu'à Capernaum depuis Jérusalem et de toutes les villes de la Galilée et des villages de Judée. Verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Vous ne trouvez pas que là, vous avez encore un détail qui est merveilleux. Ils n'ont pas simplement voulu le mettre en contact avec Jésus, mais le placer sous son regard. Voilà la pensée de ces quatre hommes, mettre ce paralytique sous son regard, parce que si Jésus le regarde, qu'est-ce qui se passera? Jésus aura compassion de lui. Le mettre sous les regards de Jésus. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Dans les autres évangiles, c'est « mon enfant ». Ce n'est pas une contradiction. Cet enfant, c'est un homme, n'est-ce pas? Mais il y a des différents reporteurs, et alors l'un insiste sur un point, et un autre donne peut-être moins de détails, plus général. C'est un homme qui doit être guéri. Verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Alors là, on a un détail de plus. J'ai dit que dans les autres évangiles, ils se parlaient en eux-mêmes. Mais vous savez, c'est très difficile de se parler longtemps en nous-mêmes. C'est pas assez beau. Alors, il faut qu'on sorte ce que l'on se dit en soi. Alors, on commence à chuchoter. On pousse un petit peu son camarade, scribe ou pharisien. Je pense pas que c'est quand même un blasphème. Et puis alors, voilà, il commence à grimacer, hein, et puis ça fait la petite coalition. Hein. Vous les voyez, ces grimaçants? Des gens religieux, ils ont leurs robes, ils ont tout, ils ont leurs phylactères, les textes bibliques, hein, par devant, par derrière. Et oui, comme sur les automobiles. Et voilà, dans leur carrosse, qu'est leur corps, dans leur carcasse, avec leurs phylactères, il juge, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, et là, il y a un mot de plus, glorifiant. C'est beau. Voilà pourquoi nous avons trois évangiles. Voilà la richesse de l'évangile. Voilà pourquoi, si vous lisez trois récits, même qui vous rapportent les mêmes faits, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est cela qui vous enrichit. Chaque mot nous sont donnés comme une pierre précieuse. Nous savons que cet homme a été touché. Dieu lui a pardonné les péchés. Est-ce que ce soir vous retournerez dans vos tentes en glorifiant Dieu parce que vous aurez reçu l'assurance du pardon de vos péchés? Est-ce que vous l'avez, vous, cette assurance du pardon de vos péchés? Est-ce que le Seigneur vous a dit, mon enfant, tes péchés se sont pardonnés? Est-ce que vous pourriez croire qu'il peut vous le dire ce soir? Que nous vous annonçons ce soir le pardon des péchés. Plus tard, dans l'évangile de Jean à sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples, à celui à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à celui à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Les disciples n'ont pas reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Seul Jésus a donné le pardon des péchés. Mais les disciples ont reçu le pouvoir d'annoncer le pardon des péchés. C'est pas eux qui pardonnent. C'est pas le prêtre ou le pasteur qui peut pardonner. Mais nous pouvons vous annoncer le pardon des péchés qui a été accompli par Jésus. Nous vous annonçons dans l'autorité du Saint-Esprit aujourd'hui le pardon de vos péchés. Mais comment Jésus a-t-il pu dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, avant qu'il ne le guérisse? Parce que Jésus est allé à la cause du mal. Je ne vous dis pas nécessairement que ce paralytique était devenu paralytique parce qu'il avait eu une vie de péché ou parce qu'il avait fait certaines choses scabreuses et qui l'ont entraîné dans une chute et qui a fait de lui un paralysé. Mais si Jésus justement a combattu cette idée, on le voit dans le chapitre 9 de Jean, que c'était l'homme qui était aveugle, qui aurait péché, ou ses parents, etc. Jésus condamne cette idée, mais pourtant, il reconnaît bien que l'origine de la souffrance, de tous nos maux, vient du péché. Pas d'un péché particulier de l'individu, nécessairement, c'est possible que nous souffrions des conséquences de nos inconséquences ou des conséquences de l'ivrognerie d'un père, d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père. Et nous souffrons aujourd'hui dans notre corps peut-être des excès qu'ont pu avoir nos ancêtres, parce qu'il est dit que Dieu visite l'iniquité des pères jusqu'à la quatrième génération. C'est pourquoi nous devons toujours y penser. Nous n'avons pas le droit de nous faire du mal à nous-mêmes. Quand on dit, mais moi je fume, ou moi je bois, mais je fais de mal à personne, vous ne savez pas si vous ne faites pas du mal à votre progéniture, si vous en avez. Et si un jour, il n'y aura pas un enfant ou un petit enfant ou un arrière-petit enfant qui maudira votre mémoire parce qu'il subit les conséquences de vos inconséquences. Mais il est vrai aussi que Dieu dit que un homme qui vit selon lui, eh bien, sa bénédiction peut retomber sur 1000 générations. S'il visite l'iniquité des pères sur 4 générations, il peut bénir sur 1000 générations, de sorte que la miséricorde de Dieu se glorifie vis-à-vis de son jugement. Ne disons pas que Dieu est injuste. Et s'il dit qu'il visite l'iniquité des pères, c'est uniquement pour nous empêcher à nous de nous faire du mal à nous-mêmes. Nous n'avons pas ce droit, et puis nous devons penser qu'en nous faisant du mal à nous-mêmes, nous faisons du mal peut-être à nos descendants. Donc, Jésus est allé à la source du mal. Et ce qui est nécessaire pour cet homme, ce n'est pas d'abord qu'il soit guéri de sa paralysie, mais que ses péchés soient pardonnés. Parce que même guéri de sa paralysie, s'il continue dans une vie de péché, qu'est-ce qui lui arrivera? Il mourra dans son péché. Mais si ses péchés sont pardonnés, il vivra dans une reconnaissance tous les jours de sa vie, et au moment où il devra comparaître devant le Seigneur, il aura la paix avec Dieu. Il en ira en paix. Et la grande question pour nous, c'est pas d'abord la guérison de nos maux physiques, mais c'est la guérison de notre âme. Est-ce que votre âme est bien portante? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Est-ce que vous pouvez glorifier le Seigneur parce qu'il a pardonné vos péchés? Eh bien, ce soir, en terminant, nous voulons simplement souligner que les droits du Fils de l'homme comportent ce droit unique de pardonner les péchés. Et s'il peut le faire, c'est parce que nous avons découvert l'identité du Fils de l'homme qui est en réalité le Fils bien-aimé de Dieu, le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance. Il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Ce n'est pas dans le ciel qu'il vous pardonnera vos péchés, c'est maintenant. Et pour que vos péchés soient pardonnés, il faut qu'il y ait en vous la reconnaissance de votre péché. Et Jésus, qui lisait dans les cœurs, a certainement lu dans le cœur du paralytique la repentance au sujet de ses péchés. Le paralytique n'a pas eu besoin de confesser ses péchés, certes il les a confessés plus tard, hein, mais il était certainement dans une attitude de repentance et aussi de foi. Il partageait la foi de ses amis et qu'il avait amené à Jésus, et il s'attendait à l'intervention de Jésus qui dépasse son attente, car être délivré de la paralysie, c'est une chose qui va lui permettre de vivre plus agréablement quelque temps sur la terre, mais un jour il faudra mourir. Et ce corps de paralysie redeviendra raide de la raideur de la mort, et il faudra qu'il paraisse devant Dieu. Alors, avoir ses péchés pardonnés, c'est plus grand qu'avoir la guérison du corps, car c'est pour l'éternité que cela va compter. Et c'est cette vie éternelle que le Seigneur voudrait donner. Mais c'est sur la terre qu'il va pardonner vos péchés. Vous devez savoir sur la terre que vos péchés sont pardonnés. Vous ne devez pas attendre d'être au ciel pour savoir cela. Et est-ce que vous pouvez être sûr que vos péchés sont pardonnés? Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pour lui-même? Pour ses propres péchés? Il était sans péché. S'il est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Alors croyez-le. Croyez qu'il est mort pour vos péchés. Il n'est pas mort pour rien, mais il est mort pour vos péchés. Et vos péchés ont un nom. Mais les avez-vous déjà confessés au Seigneur Jésus? Vous êtes-vous reconnu pécheur devant Dieu? Moi, je ne peux pas vous convaincre de péché. Je ne peux pas du tout vous convaincre de péché. Et je ne vais pas essayer de le faire. C'est le Saint-Esprit qui peut lui-même opérer en vous cette conviction. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que Jésus seul peut vous pardonner. Car comme nous l'avons lu ce matin, c'est lui qui a fait la purification de nos péchés. L'homme a péché et Dieu, son créateur, a voulu le sauver, et comme c'est Dieu lui-même qui l'avait créé, il est venu en son Fils pour réparer la faute de l'homme, et il a expié nos péchés. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà l'amour du Fils de l'homme. Et voilà pourquoi ce Fils de l'homme a droit à notre amour, parce qu'il a aimé. Et ce Fils de l'homme, parce qu'il nous a aimés, il a voulu obéir à son Père, il est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix, où il a expié nos péchés, où il les a ôtés du monde, comme le disait Jean-Baptiste, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ayant été obéissant ainsi jusqu'à la mort pour notre salut, les droits du Fils de l'homme, un de ses droits, c'est le droit à notre obéissance, c'est-à-dire à notre foi. La foi, c'est une obéissance, je crois ce qu'il a dit. Viens à moi, venez à moi, vous qui êtes chargés, qui êtes travaillés, et je vous donnerai le repos. Alors, celui qui vient à lui, eh bien, reçoit le pardon de ses péchés. Et au fond, c'est le psaume 103 qui annonçait ce récit que je viens de vous lire dans les trois évangiles. Ce psaume 103 qui disait du Seigneur, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, toutes tes infirmités. Et au fond, le Seigneur a accompli cela. Il a pardonné d'abord les péchés et puis ensuite il a guéri le paralytique de ses maladies. Alors la foule a pu glorifier Dieu. Mais qui est-ce qui a été incrédule? Les gens religieux, ceux qui croient qu'on peut encore faire son salut par nos œuvres, par nos mérites. Y en a-t-il parmi vous qui pensent que vous pouvez vous sauver et être agréable à Dieu par l'accomplissement de vos bonnes œuvres, ou qui pensent, mais moi je suis pas si pécheur que ça, pour que vous puissiez vous passer du sauveur? Je voudrais vous le dire avec affection, parce que le Seigneur me l'a dit ce soir à l'oreille. Vous savez d'où vient votre incrédulité? D'où vient vos doutes? Il y a tellement de chrétiens qui sont pleins de doutes, qui ont de la peine à croire. Comme ces gens religieux du temps de Jésus. Eh bien, vous allez le voir. Vous allez le voir demain, d'où vient votre incrédulité. Vous dites, c'est pas possible. Vous savez ce que vous êtes? Quand vous avez des doutes, vous savez comment il est, votre cœur? C'est l'Épître aux Hébreux qui va vous le dire. Votre cœur, il est méchant. C'est parce qu'il est un méchant. Méchant, méchant, méchant. Que vous êtes incrédule. Et ça, vous ne le reconnaissez pas. Vous êtes souriant. Vous avez l'air aimable. Mais vous avez un cœur noir. Parce que si vous êtes incrédule, c'est que vous êtes méchant. Et c'est ça que le Seigneur doit vous montrer. Cette racine de méchanceté qui est au fond de notre cœur, au fond de mon cœur. Quand je l'ai vu, j'avais 14 ans, mais je n'ai pas dormi de cette nuit-là. J'ai eu horreur de moi. J'ai eu la nausée de moi-même. J'ai haï ma propre vie. L'incrédulité n'est que la manifestation de la méchanceté d'un cœur. Que l'Esprit Saint nous fasse comprendre. Je sais, on me dit, mais si vous prêchez cela aux gens, vous n'aurez plus d'auditeurs, puis vous viderez nos églises. Il faut leur dire au contraire des choses qui les réconfortent. Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil, n'est-ce pas, vous êtes tous des amours. Vous n'avez tué personne, pas même une mouche, pas même un maringouin, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais offensé personne. Il faut conserver les gens, l'Église. Mais si on commence à leur dire la vérité, ils ne viendront plus. De quel bonheur qu'ils n'aient plus. Parce qu'il y en a d'autres qui viendraient. C'est à cause de ceux qui viennent que les autres ne viennent pas. Comprenez-vous? Quand on les voit, ces gens qui se disent des sauvés, ah, des sauvés. Quand on voit leur vie, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Une prétention. Comprenez-vous? Il ne faut pas avoir peur même de vider une église. Vous savez, la vérité, elle est payante. Et comme on dit la vérité, c'est vraiment parce qu'on aime ça. Si un médecin sait que telle personne est atteinte d'une maladie qui pourrait être curable, qui pourrait être guérie, mais qui, pour ne pas effrayer la personne, ne le lui dit pas et ne lui ordonne pas de se soigner, ce médecin, il est criminel. Il faut quelquefois dire la vérité. Il faut quelquefois accepter le bistouri pour vivre. Alors accepter cette chirurgie de l'âme, cette chirurgie du cœur, une opération à cœur ouvert. Et puis reconnaissant, oui Seigneur, je ne vais pas chercher maintenant midi à 14h. Si je ne crois pas en toi, si je ne crois pas en ton amour, si j'ai toutes sortes de doutes, si je me pose toutes sortes de questions, est-ce que ce ne serait pas que je ne connais pas mon cœur? Vous allez lire le chapitre 3 et 4 des Hébreux et vous allez comprendre pourquoi tant d'hommes qui étaient sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans le pays de Canaan. Ils avaient pourtant fait une expérience de la puissance et de l'amour de Dieu et ils ont péri au désert. Pour quelle raison? Parce qu'ils avaient en eux un méchant cœur d'incrédulité. Oh, vous n'êtes jamais plus grand que quand vous vous humiliez, quand vous vous repentez, quand vous dites, c'est vrai, Seigneur, je suis un rien devant toi. Et alors le Seigneur vous dit, mon enfant, tes péchés te sont tous tes péchés. Et le prix de ce pardon que le Seigneur vous accorde, c'est sa vie qu'il a donnée. J'ai parlé de son droit d'être aimé, de son droit d'être obéi, et maintenant, parce qu'il a usé et parce qu'il use de son droit de pardonner, qu'est-ce qu'il a droit sur vous, il a droit que vous aussi vous pardonniez à vos frères. Et c'est peut-être cela aussi qu'il vous faudrait. Seigneur, ai-je pardonné? Nous prions. Seigneur, nous voulons te demander encore ce soir que ton esprit nous rappelle les paroles que nous venons de lire. Non pas ce que nous avons pu dire nous-mêmes, mais ce que ta parole nous a laissé. Que nous ayons comme un tableau de ce qui s'est passé. Que nous puissions revivre cette scène. Nous aussi, nous sommes incapables d'aller à toi, mais tu nous as portés jusqu'ici. C'est peut-être d'autres personnes qui nous ont dit de venir, qui nous ont en quelque sorte portés jusqu'à ce lieu. Et nous voulons te demander que chacun de nous soyons placés sous ton regard, comme ces hommes voulaient que le paralytique soit sous le regard de Jésus. C'est tellement beau. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre que nous tous, individuellement, nous sommes placés maintenant sous ton regard. Et fais-nous entendre ta voix. Ta voix qui dit, tes péchés se sont pardonnés. Et donne-nous de croire que c'est. Et donne-nous de pouvoir, connaissant ta puissance, sauter maintenant de joie, nous lever
de notre grabat de doute, de notre grabat où nous sommes paralysés dans toutes nos actions, dans tout ce que nous désirons faire. Sans être paralysés physiquement, nous sommes paralysés spirituellement. Et tu voudrais nous voir, nous lever de notre lit de paresse, de doute, d'amertume. Qu'il en soit ainsi, et que ta parole, lue ce soir, ne retourne pas à toi sans avoir accompli tout son effet, et donne-lui la nuit de ton cœur. Donne-nous une nuit de repos, mais une nuit où tu nous parles, et où nous soyons les uns et les autres.